Je vous invite à relire dans l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, parmi les trois textes du jour, celui que l'on trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 13, les versets 22 à 30. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Il leur dit alors « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, quand restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et qu'il vous répondra « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et c'est sur nos places que tu as enseigné. » Et il vous dira « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu et vous jetés dehors. Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et ainsi, il y a des derniers qui seront premiers et il y a des premiers qui seront derniers. La question ici posée est la suivante. Qui peut être sauvé? Ou encore, si on creuse un peu et qu'on regarde bien la forme des questions qu'on nous pose ici, peut-on se sauver soi-même? C'est ce que les interlocuteurs de Jésus mettent sur la table en guise de débat. Ce n'est pas en accumulant ce qu'on a longtemps appelé les bonnes œuvres que l'on peut faire son salut ou encore, bonne vieille expression, gagner son ciel. Le faire, pourtant, est important, sans aucun doute. Nous le savons bien, nous qui souhaitons que notre foi s'extériorise, s'exprime aussi par des actes concrets, sans que l'on sache parfois qui précède l'autre. Mais nous avons aussi en mémoire les paroles de l'Ecclésiaste qui nous avertissait sans sévérité excessive, mais avec la bonhomie du sage qui est revenu de beaucoup de choses, que les entreprises humaines sont marquées par la vanité. Les actions servent souvent à valoriser leur auteur. C'est comme ça. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais il faut constamment garder cet avertissement à l'esprit. Nous voilà avertis. Mais entre cet avertissement désabusé, mais lucide, et notre besoin de dire tout de même le royaume avec des gestes, Jésus semble pencher un peu, beaucoup, du côté de l'Ecclésiaste. Être sauvé par ses propres moyens, c'est encore une vaine poursuite du vent. Ce n'est pas le salut. Il y a bien sûr un élément de réponse assez net dans ce que Jésus dit ici, ce qui nous sauve, nous est donné, quand bien même nous chercherions à nous en saisir nous-mêmes. Et puis il reste aussi cette question, qu'est-ce qu'être sauvé ? Quel péril devrions-nous fuir ? De quelles menaces devrions-nous être protégés ? Si nous ne pouvons pas répondre, même un peu, à ce genre de questions, notre recherche est un peu vide de sens. Il faut savoir ce qu'on redoute pour espérer s'en éloigner. Chaque époque, semble-t-il, contient en quantité suffisante toutes sortes de craintes précises ou diffuses, peu importe, et qui sont l'expression de la perdition du moment. Nous devons donc bien en avoir une, nous. La réaffirmation de la grâce qui sauve avait apporté, on le sait, une grande espérance à la fin d'un Moyen-Âge écrasé par la peur de l'enfer, un arrière-monde assez effrayant pour contaminer l'espoir et la force de vie au cœur même de la vie. Et aujourd'hui, quel est ou quels sont l'enfer ou les enfers du moment ? Le théologien Paul Tillich affirmait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que nous redoutions par-dessus tout la mort, l'absurde et la culpabilité. Et il est vrai que ces réalités ont toujours tué l'espoir. Chez tout le monde, quelle que soit l'époque. Mais la mort mise à part, évidemment, ce sont surtout des réalités psychologiques, individuelles, intérieures. Elles nous ont toujours tourmentés. Rien de nouveau sous le soleil, ce qui nous permet de retrouver un peu notre ami l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, l'état de notre planète, les bouleversements géopolitiques qui rendent le monde de plus en plus instable et inquiétant, la montée des tensions partout sur Terre, en Extrême-Orient comme au cœur de l'Europe, tout cela nous donne assez de raisons d'être inquiets. Nous n'en avions d'ailleurs pas besoin. Assez de raisons pour perdre espoir. Il se pourrait même que nous soyons dans une triste situation puisque, cernés par les raisons intérieures et les raisons extérieures de perdre espoir, une sorte de cumul où nous ne trouvons plus d'espace de repos, ni d'un côté ni de l'autre, plus d'échappatoire, même provisoire. Jésus essayait déjà de répondre à cette situation, à ces préoccupations angoissantes à son époque. Toutes reposaient sur quelque chose d'universel et de permanent, la crainte d'un jugement. Cette peur a certainement reculé pour se réfugier ailleurs, elle a changé de forme, elle ne nous a jamais quittés. Mais la recherche d'un mérite qui compenserait les coups du destin a toujours été et sera toujours un réflexe humain, quelle que soit l'époque. Nous sommes comme ça. Et c'est justement cette petite entourloupette, ce jeu de bonneteau avec le tragique de la vie que Jésus écarte d'un revers de main. Une fois que Jésus a fini de prendre la parole, nous ne savons pas ce qu'a été la réaction de ses auditeurs. Nous avons une parabole, elle commence avec des guillemets et ferme et finit quand on referme ses guillemets. Et la réaction de l'auditoire, nous ne l'avons pas. Nous ne savons pas. On peut supposer peut-être que le message est passé, au moins chez quelques-uns. Personne ne serait capable de se tenir devant Dieu, en tout cas, s'il fallait faire partie d'une petite élite de vertueux. Une fois délivrés de cette illusion, que nous reste-t-il ? Eh bien, il nous reste à vivre gratuitement, comme le disait fort bien le chant que nous avons chanté tout à l'heure, de la gratuité. Au sens où l'entendait Luther, peut-être, être sauvé, c'est avant tout être délivré de l'obsession d'être sauvé. Hier, aujourd'hui et demain. Alors les premiers auditeurs ont certainement écouté attentivement cette parabole, mais on peut se demander s'ils ont saisi la perche qu'on leur tendait. La nature humaine étant ce qu'elle est, ils ont peut-être été nombreux à préférer la tricherie avec la vie, le bonneteau, à vouloir fabriquer un salut qui leur était déjà donné. On ne sait pas à quelle proportion. Un certain nombre en tout cas, c'est certain. Jésus utilise l'image de la porte étroite, la voie difficile, parce que c'est celle qui consiste à recevoir gratuitement une libération de nos petits mécanismes rédempteurs mal bricolés. Et c'est cette solution que nous rejetons pourtant. Nous préférons enfoncer des portes ouvertes plutôt que de passer par une porte étroite, la seule pourtant, qui mène quelque part. Jésus a sans doute volontairement choisi de s'opposer à tous ceux qui se croient sauvés par leurs efforts ou leurs vertus. Ce combat est le plus important de tous. Toutes les paraboles antérieures ou postérieures à cette conversation ont toujours eu le même but, le même objectif. À quelle porte étroite Jésus fait-il allusion ici ? D'après les commentateurs, toujours bien de se référer à une autorité quand on n'a pas d'idée soi-même, c'est ce que je suis en train de faire. D'après les commentateurs, il s'agirait peut-être d'une porte de Jérusalem qui était tellement étroite qu'on devait décharger les chameaux pour la franchir. Ça veut dire que l'entrée dans le cœur battant de la vie de ce pays, sa capitale religieuse, politique, son centre même, son cœur, on y entrait en se délestant de toute richesse, ce qui voulait dire que l'on ne pouvait pas s'approprier le royaume de Dieu, avec les richesses qu'on emportait avec soi, même si cette richesse ouvrait pourtant de nombreuses possibilités de générosité et de dons, ce qui est vrai également. Il fallait s'en dépouiller pour entrer. Il y a quelques années, je visitais le château d'Amboise. En bas du château, il y a une petite salle dans laquelle on ne peut entrer que très difficilement par une petite porte étroite. Le guide qui commentait la visite, devant les questions de certains visiteurs, a expliqué pourquoi cette porte était si étroite. On a pensé que c'était parce que les standards physiques des Français du début du XVIe siècle faisaient qu'ils pouvaient passer tête haute, sur la pointe des pieds, même sous une pareille porte. Ça n'était certainement pas valable pour François Ier, qui était un double maître et qui avait une carrure de footballeur américain ou de rugbyman. Il ne saurait pas passer comme ça par cette porte. Ce n'est pas une question de taille. François Ier recevait, quand il résidait à Amboise en tout cas, des chefs militaires et quelques ministres pour évoquer certaines affaires délicates en tout petit comité et dans le secret. L'étroitesse de la porte n'était pas là pour gêner, par plaisir, l'entrée des visiteurs. Elle devait les obliger à laisser dehors les cuirasses, les cottes de mailles, les épées, les dagues et autres poignards. En somme, on ne pouvait entrer que si on abandonnait toute arme, défensive comme offensive. Non pas pour le simple plaisir de se retrouver vulnérable ou presque nu, parce qu'à cette époque-là, des personnages importants comme ça circulaient toute la journée armés et protégés. Mais pour créer, entre eux et le roi, un lieu où l'on pouvait se faire confiance et échanger les propos de la plus haute importance au sujet du royaume. C'est pour ça qu'il fallait une porte aussi étroite. Transposer l'utilité de cette porte à celle que Jésus évoque dans le texte d'aujourd'hui, et vous verrez finalement à quoi elle sert. Le salut gratuit, réaffirmé ici avec force et simplicité, est accompagné d'autre chose qui est peut-être au moins aussi important, c'est le dépouillement nécessaire de tout ce qui nous entrave pour recevoir joyeusement, volontairement et à pleine main la liberté qu'on nous donne. Il n'y a pas de péage à l'octroi. Il y a au contraire une franchise généralisée qui garantit le passage à tous. Personne ne va nous rançonner. Il n'y a personne pour nous dévaliser à l'entrée. Au contraire, on nous invite à nous débarrasser de nos oripeaux, de cambrioleurs occasionnels et maladroits. On nous fait passer en plein jour par la porte qu'empruntent ceux à qui l'on fait confiance, alors que nous avons si souvent essayer d'entrer par la petite fenêtre de la cave au beau milieu de la nuit. Si les premiers et les derniers doivent échanger leur place de temps en temps, c'est parce qu'il y a dans ce texte une inversion totale des valeurs. Beaucoup en ont rêvé, d'inversion, de transvaluation de toutes les valeurs. Ici, il y a une inversion totale des valeurs. Ce n'est pas à nous de chercher sans relâche un salut que nous avons par ailleurs du mal à définir, bien du mal. La liberté qui sauve nous est déjà donnée, ou du moins proposée. Le salut, c'est un état de conscience un peu fragile, délicat, dans lequel nous comprenons l'espace d'un instant parfois que nous avons déjà été trouvés. Lorsque nous en sommes là, nous avons passé le seuil. Nous avons passé la porte étroite. Mais si nos sempiternelles tentatives d'entrer par effraction, par nos propres moyens, mobilisent à nouveau l'essentiel, la plus grande partie de notre énergie et de notre temps, alors nous nous jetons nous-mêmes dehors. C'est comme ça que ça fonctionne, le salut. De premier, nous devenons ou redevenons derniers. N'est-ce pas dommage de rebrousser chemin en prétendant qu'on a trouvé porte close alors que cette porte était ouverte et que nous étions attendus à l'intérieur ? Vous ne trouvez pas ? Amen.